France Inter.
Mesdames, messieurs, votre attention s'il vous plaît. Je vous souhaite la bienvenue à bord du train intercité de nuit numéro 5773 à destination de Nice-Ville. Exceptionnellement, ce n'est pas votre chef de bord qui vous parle, mais le Premier ministre. C'est un honneur et un vrai bonheur d'effectuer avec vous ce trajet. Longue vie à Paris-Nice et bon voyage à toutes et à tous.
Le train de nuit fait partie de notre imaginaire. C'est le voyage dans le voyage. Mais la réalité est encore loin de nos rêves d'aventure ferroviaire. Le quotidien, ce sont des lignes nocturnes désuètes, abandonnées pendant des années, car pas rentables. Sauf que la crise environnementale redonne un second souffle au train de nuit. 4 lignes en France pour le moment, dont 2 fraîchement relancées, et l'État en annonce 10 d'ici 2030, après un investissement qu'il promet massif, 100 milliards d'euros dans les 25 prochaines années. Écologique, économique, le train de nuit est aussi un atout incontestable pour désenclaver certains territoires mal desservis.
L'an dernier, 6 200 000 personnes sont venues dans les Hautes-Pyrénées. Beaucoup utilisent le train. Donc je pense que l'État a tout intérêt à investir sur les lignes de train de nuit, parce qu'elles sont peu chères et parce que c'est un outil de décarbonation qui est aujourd'hui reconnu.
Le train de nuit n'est pas un mode de transport comme les autres. Il est subventionné par l'État en tant que train d'équilibre du territoire. Ce qui n'empêche pas la France d'être à la traîne, notamment sur le plan industriel et sur l'achat de matériel, loin derrière des pays comme l'Autriche et son maillage très dense de lignes de nuit. Chez nous, pour relancer les premières dessertes nocturnes, comme le Paris-Nice, à l'hiver 2021, l'idée a été de rénover de vieilles voitures des trains corail des années 80.
On attend l'étape suivante, qui serait acheter du matériel neuf, parce qu'aujourd'hui, le matériel arrive de toute façon en fin de vie. Et si l'État ne commande pas tout simplement des trains neufs, dans quelques années, les trains de nuit ne pourront plus continuer à circuler.
Ce reportage débute à la gare d'Austerlitz à Paris. C'est d'ici que part le Paris-Lourdes, ligne qui a revu le jour fin 2021 après 4 ans d'interruption. À terme, cette ligne devrait être prolongée jusqu'à Hendaye. Il y a plusieurs possibilités pour voyager, des sièges inclinables pour les plus petits budgets, des compartiments réservés aux femmes et des cabines de 6 ou 4 couchettes pour une nuit censée être plus confortable. C'est l'heure de l'embarquement pour Faustine Calmel et Marc Garvenès. Voici leur reportage, le nouveau départ des trains de nuit.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction de France Inter.
Départ ce mardi soir de la gare d'Austerlitz à Paris. Sur les tableaux d'affichage au départ, 2 trains de nuit. 20h48, Briançon et Nice. Et puis le nôtre, 21h13, voie numéro 2, direction Toulouse, la Tour de Carole et Lourdes, où nous serons normalement demain matin vers 7h30.
Madame, messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Je vous informe que le train intercité de nuit numéro 3971 à destination de la Tour de Carole et 3741 à destination de Lourdes. Partirons à
21h13 de la voie numéro 1. On y va? Nous passons maintenant à l'intérieur
des SNCF.
Et
OK
pour vous, bon voyage à vous.
Merci.
Surtout savoir comment passer parce que
31, c'est en bas. Ah oui.
L'intercité 3741 est à destination de Lourdes. Pour votre sécurité, les compartiments rouges sont équipés de verres.
Donc ici, c'est une cabine de première classe. On a 4 couchettes seulement. Je dis seulement parce qu'il y en a quand même 2 de plus, c'est-à-dire 6 en seconde. Voilà, on a été accueillis avec un petit oreiller, des duvets, entre le sac à viande et le duvet. Les couchettes sont pas mal. C'est voilà, assez confortable. Il y en a... 4 du coup, c'est en superposé, donc 2 d'un côté, 2 de l'autre. Les 4 personnes que nous sommes dans la cabine pour cette nuit, ça fait quand même un peu étroit. On peut quand même mettre les bagages en dessous, un peu au-dessus. Lumière tamisée et individuelle disponible. Des prises aussi pour chaque couchette. Ah oui, pour grimper aussi, derrière moi, une échelle un petit peu pentue. Permet d'accéder aux couchettes supérieures. Allez, on y va, on monte, moi je dors en haut. Installation du V. Alors moi je suis grande, je suis presque 1m80, mais je rentre quand même dans la couchette, mais ça devrait pas être beaucoup plus grande. Bon, sinon on est pas mal, hein.
Simon.
Qu'est-ce qui vous a amené dans ce train de nuit ?
Très exactement, j'ai un rendez-vous demain à 17h à côté de Tarbes et j'avais un rendez-vous ce matin à midi à Paris. Dans les horaires et les trucs proposés, je me suis dit, eh tiens, pourquoi pas un train de nuit ? Est-ce que ça va me permettre de faire tout ce que j'ai besoin de faire dans le temps imparti, sans avoir à me stresser forcément ? Parce que si je devais partir demain matin à 8h ou 10h, ça peut être embêtant pour le rendez-vous de 17h.
Et ça faisait longtemps que vous n'aviez pas pris le train de nuit ?
Ben, la dernière fois, c'était... Enfin, en France, c'était il y a 20 ans. Je sais plus, c'était à Montpellier-Nancy, je crois. Sinon, j'en ai fait plusieurs en Chine, par exemple, où le confort est un peu mieux que ça. Où, du coup, on est plus comme une première classe d'avion, où on a vraiment une zone tout seul. On a des boissons, on thé, des chaussons, des trucs. Donc, c'est plutôt cool, ouais. Donc, ici, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Bon, ça a l'air pas mal, vraiment. On verra ce que ça donne. On est un peu serré, ouais.
Ce qui vous a donc motivé, si j'ai bien compris, c'est les horaires. Et il y avait...
C'est presque 50% de moins, ouais, pour au moment où j'ai pris mes billets. 90€ là. Si je devais partir demain matin, c'était 120-130€.
Vous avez pensé à l'avion ou pas ? Parce qu'on peut descendre en avion aussi.
Alors je préfère éviter en France au maximum. Je le prends déjà beaucoup pour voyager loin. Alors, si je peux éviter de le prendre pour voyager près, on peut essayer de faire attention.
Bon, vous nous direz demain matin comment c'était ?
Ouais, ça va, bah, j'espère que je vais pas trop ronfler, j'entends. Pas trop vous embêter votre micro là.
Premier arrêt du Paris-Lourdes, le dernier avant la nuit, en gare des Aubrais, près d'Orléans.
On les laisse sur place dans la bonne voiture et on y va. Bonjour.
Bonjour mesdames.
Bonjour. 13.
Tout au bout.
La dernière.
Ouais,
on
vous laisse
installer. Prenez votre temps.
C'est la nôtre.
Alors 13, j'arrive.
Installé.
Vous faites ça. 13.
Allez, bonjour. On va vous envoyer la voiture en attendant. Merci.
Thank you. Tu la poussette au fond ou on la ramène dans le...
On peut la mettre là aussi.
J'ai les ordres de billets, s'il vous plaît.
Je peux vous demander votre prénom ?
Lucille.
Et vous le prenez souvent, ce train de nuit ?
Régulièrement, pour des raisons de travail. Donc, quand je dois me rendre à Paris pour un séminaire ou des formations, je le prends. Ça me permet de gagner du temps. Je suis ingénieure agronome et je travaille pour le développement de l'agriculture biologique sur le territoire de l'Ariège et Haute-Garonne.
Pourquoi ce choix du train de nuit plutôt que d'un train de jour ou de l'avion même, puisque c'est possible ?
Pour des raisons écologiques, pour des raisons de prix et encore une fois pour des raisons de temps. Je préfère faire du trajet quand je suis en train de dormir que le passer, de réveiller dans le train.
Vous les trouvez confortables, ces trains ?
Oui, je suis assez contente. Je me souviens que j'en prenais quand j'étais petite et qu'ils ont disparu, plus ou moins. Et donc là, je suis contente de le revoir. J'ai un peu l'impression de partir à l'aventure à chaque fois.
Pour ce trajet Paris-Lourdes, nous avons voyagé en première classe, 84 euros le billet. Dans le train de nuit, on se couche tôt pour ne pas déranger ses voisins. Extinction des lumières dans notre compartiment vers 22h30 pour une nuit bercée par le roulis du train, mais un peu morcelée. Nous avions un ronfleur parmi nous. Premier réveil vers 6h30, premier arrêt à Tarbes, un peu après 7h du matin. Dans notre voiture, ce n'était pas simple pour tout le monde. Alors cette première nuit dans le train
Un peu compliqué, beaucoup de mouvements, ça m'a pas mal réveillé, donc plein de micro-sommeil. Mais dans l'ensemble, plutôt bien, le confort est pas mal. On n'est pas trop mal installé en vrai. L'oreiller, ça va, c'est pour être un peu plus gros. Mais... Non, c'est pas mal du tout en fait, je m'attendais à pire que ça. Non, le seul truc chiant, c'est les brinque-ballements où on est, ça accélère, ça ralentit, ça accélère, ça ralentit. Je pense qu'on n'est pas habitué, enfin moi je suis pas habitué à dormir dans quelque chose qui bouge.
Vous pensez que vous recommencerez ?
Oui, je pense. Enfin, après, je vais voir mon état dans la journée. Mais là, pour la matinée, ça va, je vais être tranquille. Donc, je vais me poser un café, je pense, à Tarbes. Essayer de récupérer un peu. Et ensuite, je commencerai ma journée pour de vrai.
Mesdames, messieurs, donc, la cabine d'interne, c'est la
de Tarbes. Vous laissez impacter ?
Oui, c'est bien sûr.
Attendez, la récompense de descendre et de regarder l'espace entre la prochaine ligne et toute l'équipe de la cité de nuit.
On arrive à Lourdes à l'heure, 7h25 pile. Lourdes accueille déjà chaque année plus de 3 millions de touristes, principalement des pèlerins. La majorité arrive en car. La ville de 14 000 habitants dispose aussi d'un aéroport qui la relie à Paris-Orly en 1h25 à peine. Pourtant, son maire s'est engagé en faveur du train de nuit et milite pour le développement du transport ferroviaire. Nous avons rendez-vous avec lui dans son bureau à la mairie. Comme après une nuit dans le train.
On peut réserver la cabine.
Pour une famille, c'est mieux peut-être. Entre il y a deux ou trois.
Alors, je suis donc Thierry Lavitte, le maire de la ville de Lourdes depuis le 5 juillet 2020, au maire sans étiquette.
Quand vous êtes arrivé ici à la mairie, la ligne de train de nuit avait été arrêtée quelques années avant, en juin 2017. Elle a repris du service. Qu'est-ce qu'elle vous apporte aujourd'hui ?
Nous, on l'a défendue parce que, animée par ce, comme tout le monde aujourd'hui, on ne va pas jouer les meilleurs que les autres, par la volonté de s'inscrire dans la transition écologique. Il y a, je dirais, la responsabilité écologique, la décarbonation, quand on sait que le transport ferroviaire émet 15 fois moins de CO2 par passager par kilomètre que l'avion. Mais je ne vais pas trop tirer sur l'avion parce que nous avons des lignes internationales ici, en low cost, et qui amènent énormément de visiteurs, de touristes et de pèlerins. Donc, en tout cas, c'est la complémentarité et c'est travailler sur cet axe-là. La deuxième chose, c'est aussi la responsabilité sociale. Quand on connaît le prix de la ligne de train de nuit, si on s'y prend un petit peu avant, on peut avoir un billet à 19 euros en seconde et à 39 euros en première classe. Donc c'est quand même un attrait important. Troisième élément important, c'est le désenclavement du territoire. Train de nuit qui permet, depuis Paris, de venir visiter les Pyrénées, l'Haute-Pyrénées, Lourdes, son sanctuaire, évidemment, qui est le socle de l'activité ici, mais pas que. Par exemple, des Parisiens prennent, ou Parisiens ou autres qui arrivent jusqu'à Paris, prennent le train de nuit avec leur vélo ou leur ski et se retrouvent face aux Pyrénées en arrivée avec des navettes qui les amènent à la station de ski. Donc c'est un voyage qu'on ne veut pas passer. On dort, le matin on se réveille, pour pas cher, parce que l'avion, certes à low cost, on peut voyager, on peut faire Lourdes-Paris en 1h30 en gros, pour, on va dire, entre 70 et 130 euros. Mais 19 euros pour des citoyens jeunes qui n'ont pas des salaires importants, c'est quand même pas rien, 19 euros. Et puis aussi, ça permet d'amener son matériel, ski, vélo. Et nous sommes ici une terre de vélo. D'ailleurs, la SNCF continue à travailler sur ses wagons pour pouvoir améliorer. Il faudra aussi quand même, la SNCF a la conscience, mais nous travaillons régulièrement avec eux, un groupe de travail avec SNCF, sur l'amélioration en ce qui concerne les personnes à mobilité réduite.
Mais ces trains de nuit, notamment, ils coûtent cher à l'État. C'est des trains qui sont aussi très subventionnés. Ça vaut le coût, malgré tout?
Si vraiment on veut s'inscrire dans la transition écologique, elle a un coût. Notre préoccupation première, c'est quand même le fait de penser à ce qu'on va laisser à nos générations futures. Et le transport ferroviaire est quand même l'outil le moins polluant. Même si je regrette encore que les tarifs TGV soient un peu élevés, mais à contrario, les trains de nuit, c'est un tarif très attractif quand même.
Pour votre territoire, quels enjeux de développement il porte, ce train de nuit?
Mais c'est d'amener tout simplement des visiteurs, des touristes et des pèlerins sur nos territoires. L'an dernier, 6 200 000 personnes sont venues dans l'Haute-Pyrénées. Donc beaucoup utilisent le train. Donc je pense que l'État a tout intérêt à investir sur les lignes de train de nuit parce qu'elles sont peu chères et parce que c'est un outil de décarbonation qui est aujourd'hui reconnu, tout simplement.
Actuellement, les trains de nuit ne sont pas rentables. Les trains de jour et surtout les TGV font, eux, plusieurs trajets dans la journée et par définition, ce n'est pas le cas des longs et lents parcours nocturnes. Ça n'empêche pas la SNCF de prévoir d'autres lignes. Le Paris-Aurillac est prévu à l'hiver prochain. En parallèle, l'offre internationale devrait s'enrichir et d'ici la fin de l'année, l'objectif est le Paris-Berlin. Faustine Calmel s'est rendue au siège de la SNCF pour y rencontrer la directrice intercité, Amandine Thomas-Commun, et son but est de continuer à développer l'offre.
Interception sur France Inter.
On avait sur le marché domestique 350 000 voyageurs environ en 2019. Alors, certes, l'offre a été augmentée, mais entre-temps, on a eu des travaux aussi qui ont pu interrompre certaines lignes. 350 000 en 2019, 700 000 l'année dernière. Et on est toujours sur des dynamiques de très forte croissance, boostées aussi parce qu'on en fait un train populaire avec des prix d'accès peu chers, et boostées aussi évidemment par le développement de l'offre. Et ce qu'on appelle le taux d'occupation du train, c'est-à-dire on avait des trains qui étaient remplis en moyenne à environ 40% en 2019. Aujourd'hui, plus de 60% en moyenne, et avec des clients qui anticipent beaucoup et des trains pleins au départ en vacances, des trains pleins aussi avec des professionnels le jeudi soir notamment, parce qu'on n'a pas que des clients loisirs et des familles, on a aussi une très forte part de clients qui voyagent pour des motifs professionnels.
Dans un rapport qui a été présenté par le gouvernement au Parlement en mai 2021, on évoque une dizaine de lignes en 2030. 2030, c'est très bientôt, ça veut dire que c'est ambitieux. Est-ce que c'est réalisable ?
Aujourd'hui, l'État, qui est notre autorité organisatrice, hein, parce que le modèle économique des trains de nuit domestiques en France, c'est un modèle conventionné, un modèle contractuel. L'État a déjà mis 100 millions d'euros pour relancer la dynamique des trains de nuit. Donc grâce à cet argent, on a pu relancer le Paris-Nice, on a pu doubler l'offre de nuit du Sud-Ouest et surtout on a pu rénover le matériel. On a du matériel corail aujourd'hui qui est certes du corail, mais du corail rénové avec Wi-Fi, avec insonorisation. Enfin, c'est plus du tout les vieux trains de nuit qu'on a connu du début des années 80. Donc il y a eu déjà 100 millions d'investissements. Maintenant, pour la suite, ce que dit ce rapport, c'est que, et donc c'est une décision financière, donc politique, hein, c'est qu'il serait nécessaire d'investir 1,5 milliard d'euros d'argent public pour développer cette dizaine de lignes de train de nuit horizon 2030. Et puis, au-delà des sujets financiers et politiques, donc la décision appartient bien entendu à l'État, il y aura sans doute des sujets aussi de trouver le parc, voilà, commander le parc à un industriel, et puis des sujets un peu industriels ferroviaires, des installations de maintenance, résoudre le sujet des travaux. Il y a énormément de travaux aujourd'hui en France sur le réseau, et c'est une très bonne chose, parce que ça veut dire qu'on investit dans le réseau ferroviaire, on investit dans le rail, et c'est une très très bonne nouvelle. En revanche, les travaux, ça se tient la nuit, donc c'est aussi des obstacles, parfois, à la circulation de nos trains. Donc soit on trouve des manières détournées, soit malheureusement on interrompt l'offre, et une offre qui est interrompue, elle est moins lisible, elle est moins attractive. Voilà.
Est-ce que ça vous paraît réaliste de revenir à une France très quadrillée, comme elle a pu l'être il y a une vingtaine d'années, voire encore plus une France qui pourrait être desservie, y compris dans des toutes petites localités, par du train de nuit?
Alors, ça l'est déjà.
Mais dans plus d'endroits.
Est-ce que ça paraît réaliste d'aller plus loin? Oui, en tout cas, nous, on est très volontaires côté SNCF. Après, ce sont des décisions financières, donc politiques. Et puis, c'est un temps ferroviaire, donc c'est un temps long. Il faut le temps d'acquérir, de faire construire le nouveau matériel. Il faut le temps de construire les installations de maintenance aussi, parce qu'il faut que ces trains soient maintenus. Et puis, il y a des sujets industriels aussi à régler pour trouver les bons sillons, qui sont aussi des sujets industriels parfois un petit peu lourds. Mais après, avec une volonté politique et du temps long, je crois qu'on a potentiellement une très belle aventure pour le train de nuit en France.
Pour redéployer des lignes de train de nuit et donner aux voyageurs l'envie d'y monter, il faut rénover des voitures qui datent des années 70 et 80. C'est ce que s'emploient à faire les 550 ouvriers du technicentre de Périgueux. Depuis un peu plus de 2 ans, ils désossent et réhabilitent les anciens wagons, une centaine en tout, dans d'immenses ateliers à quelques dizaines de mètres de la gare de Périgueux.
Juste pour information, le site date de fin du 19e siècle. Dans les années 1870, il fait un peu plus de 10 hectares.
Mathieu Michaud, directeur du Technicentre de Périgueux.
On a deux activités principales, une activité de matériel roulant, rénovation de matériel roulant, donc là où on va avoir principalement du courage jusqu'à présent et maintenant des automotrices TER. Donc c'est toute la partie du fond. Et sur toute la partie en face de nous, on a là des pièces détachées, donc principalement des clims et des sanitaires, des pièces de sanitaires, ce qu'on appelle des PRM chez nous. Et puis, à l'arrière, il y a toute la partie logistique. Voilà, juste pour vous situer sur le site.
Ok. On va avoir une vision globale, on va monter. C'est juste pour que vous voyez de haut. C'est intéressant.
Donc là, on est dans l'atelier où il va y avoir principalement le démontage et le remontage des voitures corail.
Là, à droite, on a une vieille rame.
Une vieille voiture, ouais.
Désossée, c'est ça ?
Une vieille voiture qui est complètement désossée, on le voit, il n'y a plus rien à l'intérieur. Elle a déjà été un peu retouchée en extérieur parce qu'on voit qu'il y a de l'enduit qui est dessus, sur les parois, mais elle est complètement désossée, effectivement, et elle va bientôt aller en peinture.
Donc quand elles arrivent ?
Désossée et désamiantée, parce que du matériel corail, des années 70-80, il y a de l'amiante à peu près partout, et donc on a une installation spécifique, dédiée, pour désamianter le matériel. Voilà. Donc quand il repart, toutes les zones où on a accès, en tous les cas, il n'y a plus d'amiante.
Et là, à gauche, c'est la version terminée ?
À gauche, on est sur une version quasi finie, ouais.
C'est ça ?
Oui. On va aller voir sur place dans les voitures. Restez bien dans les allées bleues. Hein. Ouais.
Bonjour. Alexandre Vigier, chef d'équipe, nous accompagne lors de la visite de l'atelier. Qu'est-ce qui préside à cette rénovation, notamment en termes de confort ? L'idée, c'était quoi ? C'est que ce soit plus adapté, mieux insonorisé ?
C'est des voitures qui sont de 75, donc en termes de modernisation sanitaire, déjà, il y a eu un gros boulot fait, parce que c'était des choses qui étaient assez vétustes. Après, on a une grosse partie sur la sécurité avec les stations incendies, qui n'existaient pas à l'époque, l'installation du Wi-Fi, Et après, tout ce qui est économie d'énergie, donc installation, passage en LED.
Et le retour des premiers clients mentionne aussi la sonorisation qui a été améliorée. Puisque des parois ont été refaites.
Il y a du stratifié.
Et, du stratifié, et les retours sont plutôt positifs de ce côté-là aussi. Vous voulez monter dans des voitures pour voir ou...
Ouais, je veux bien.
Ouais.
Vous pouvez, c'est sécurisé.
Celle-là, elle est sécurisée.
Ouais.
Super. On est sur la deuxième phase de remontage.
Voilà, c'est ça, remontage 2. Donc là, on a fait les revêtements de sol sous vos pieds et tout ce qui est partie pelliculage de plafond. On est aussi en train de faire, dans ce que je disais, l'installation de la plateforme pour, ici pour la platine incendie. Et après, vous voyez, partout où vous avez les câbles qui se ressortent, là sur les plafonds, ce sera pour les détecteurs.
Et ça, il n'y avait pas du tout sur les anciennes
rames. Non, pas du tout.
Absolument pas. Et pour ce qui est du Wi-Fi,
le Wi-Fi, on va le voir, on va avancer un peu plus dans le couloir, je vais vous le montrer. Mais ici, on a un routeur Wi-Fi, un peu comme chez vous, votre Livebox, qui est ici. Sur le toit, vous avez une poutre avec 4 antennes GSM. Et à l'intérieur, en diffusant, on a 2 antennes qui viennent se positionner dans le couloir, qui diffusent sur l'ensemble de la voiture. C'est une grosse, grosse demande.
Et à quelles difficultés techniques, on a parlé du désamiantage, qui est un gros morceau, vous vous heurtez pour ce
le
type
gros morceau,
de voiture?
Oui, là, c'est le désamiantage, oui. Parce que comme on dit, on fait de la découpe en plafond, on a directement tapé dans l'isosson, on a la laine de verre qui est toujours en suspens, c'est des voitures qui, pour certaines, étaient stockées depuis des années, donc qui tout était en train de tomber. Donc ça a été la grosse difficulté sur le projet. Après, on maîtrise notre domaine, donc on arrive à gérer tout le reste.
Donc, l'année dernière, tous les 4 jours, une voiture sortait des ateliers. Une voiture rénovée.
Et la dernière doit sortir quand?
La dernière, c'est nuit.
Juin, mi-juin.
Ouais.
Après rénovation, quelle est la durée de vie de l'engin?
15 ans.
L'ordre de grandeur, c'est ça. En même temps, les corails, elles étaient données pour mortes il y a très longtemps. Et finalement, ça roule toujours, et même on les rénove encore pour 15 ans à venir. Donc, c'est du matériel infatigable.
Pourtant, il y a 5 ans, la SNCF avait fermé la plupart de ses lignes. Trop cher, pas assez fréquenté, chaque billet coûtait une centaine d'euros aux contribuables. Les nouveaux trains de nuit peuvent-ils être rentables? Non, toujours pas, mais il faut aider les compagnies ferroviaires.
Puisqu'il dégage moins de CO2, qu'il fait moins de bruit, qu'il a moins de nuisances, eh bien, il faudrait apporter aux sociétés qui l'exploitent des subventions en rapport avec les économies environnementales qu'il permet.
Un investissement estimé à 1,5 milliard d'euros pour renouveler l'ensemble du parc des trains de nuit.
Nous sommes de retour à la gare d'Austerlitz, d'où nous avons emprunté le train de nuit Paris-Lourdes au début de ce reportage. C'est ici que nous retrouvons Nicolas Faurien. Il est le porte-parole du collectif Oui au train de nuit. Et cela fait des années qu'il milite pour un réel retour et développement de ce mode de transport.
Alors, ces dernières années, l'État a relancé quelques lignes de train de nuit et a rénové les voitures couchettes qui avaient près de 45 ans. Mais aujourd'hui, on attend l'étape suivante qui serait acheter du matériel neuf, parce qu'aujourd'hui, le matériel arrive de toute façon en fin de vie. Et si l'État ne commande pas tout simplement des trains neufs, dans quelques années, les trains de nuit ne pourront plus continuer à circuler.
On a vu justement dans un technicentre comment on rénovait tout ce matériel roulant. Ça veut dire que le travail qui est fait là, finalement, c'est du travail à courte échéance?
En fait, la décision de racheter des trains de nuit a été toujours reportée à plus tard. Mais si on veut maintenant développer le réseau, ouvrir de nouvelles lignes, pas uniquement vers Paris et vers l'Europe, il faut à tout prix construire des trains de nuit neufs, aussi pour avoir des trains de nuit plus modernes, avec tous les niveaux de confort, jusqu'aux voitures-lits et les cabines privatives pour les voyageurs professionnels, et qui soient aussi accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Mais alors ça, c'est des investissements et de la construction qui prennent du temps. Est-ce que ça, l'État l'a engagé, ou est-ce que vous souhaitez qu'il le fasse ?
Alors l'État n'a toujours pas engagé la construction de trains neufs pour les trains de nuit. Et on sait que la construction d'un nouveau matériel prend au moins 5 ans à peu près. Et donc aujourd'hui, si on veut un réseau à la fin de la décennie, si on veut pouvoir ouvrir de nouvelles lignes avant 2030, il faut prendre la décision maintenant. Il y avait un rapport de l'État récemment qui a recommandé d'investir 1,5 milliard d'euros pour construire 600 voitures couchettes et relancer un véritable réseau avec des lignes au départ de Paris, aussi entre les régions et aussi vers l'étranger.
Est-ce que ce rapport a été suivi par le gouvernement ?
Alors pour le moment, on attend toujours la commande, le chèque de l'État. Il n'y a aucune que des petites promesses. Et l'État essaye de revoir l'ambition à la baisse. Il a parlé d'1,5 milliard pour 600 voitures. Ensuite, ils ont parlé de 800 millions d'euros pour 300 voitures. Et dans le dernier rapport, l'État essaierait de commander seulement 150 voitures pour prolonger seulement les lignes existantes. On ne peut pas accepter ça parce que les territoires ne peuvent pas attendre encore 15 ans pour retrouver leur ligne de train de nuit. Et donc c'est maintenant qu'il faut mettre l'ambition nécessaire pour retrouver un vrai réseau de train de nuit, pour avoir une alternative à l'avion et à la voiture en France et en Europe.
On évoquait tout à l'heure la question des investissements qui sont revus à la baisse par le gouvernement. Aujourd'hui, il faut le dire aussi, ce train de nuit, il n'est pas rentable.
Alors il faut voir qu'aujourd'hui, la plupart des trains ne sont pas rentables. Quand vous prenez le TER, vous payez qu'une toute petite partie de votre billet. Et donc on ne voit pas pourquoi on demanderait aux trains de nuit d'être rentables, alors que la plupart des transports publics nécessitent un financement public. Et ce financement public est nécessaire pour l'aménagement du territoire si on veut desservir des régions enclavées comme Aurillac. Si on faisait rouler que les trains qui étaient rentables, on n'y aurait jamais de train à Aurillac.
La relance des trains de nuit par le gouvernement aiguise forcément l'appétit des acteurs privés. Ces entreprises visent un créneau en particulier, des trains beaucoup plus luxueux. Prenons l'exemple de Midnight Trains, les trains de minuit. Les fondateurs de cette start-up avaient déjà flairé la bonne affaire il y a quelques années en créant la plateforme de financement participatif KissKissBankBank. Aujourd'hui, leur projet de faire rouler d'ici 3 ans des voitures bien plus confortables que celles de la SNCF vers de grandes villes européennes. Faustine Calmel a donné rendez-vous à Adrien Aumont. Il est l'un des deux cofondateurs de la société. Il se rencontre au Train Bleu, sous les dorures de la célèbre brasserie de la gare de Lyon.
La première ligne qu'on lancera sera le Paris-Milan-Venise. Mais le but est finalement de mailler l'Europe et de connecter toutes les grandes villes d'Europe les unes aux autres par nos trains de nuit. Et on est dans une logique de gros marché. Notre concurrent, c'est l'aviation. Et donc on vise les gros marchés de l'aviation, moyen courrier, sur des distances de 0 à 1500 km, pour faire descendre un maximum de gens des avions. Et puis surtout, pour avoir un modèle économique qui tourne. Paris-Milan-Venise est un très bon exemple. À peu près 4 millions de personnes qui voyagent en avion chaque année. Et donc en prenant entre 5 et 10% de ces voyageurs, vous faites une ligne rentable, et avec cette logique en Europe, vous faites une compagnie qui, elle, sera rentable et bénéficiaire.
Comment est-ce que vous pouvez convaincre les gens qui aujourd'hui prennent l'avion de venir dans votre train de nuit ?
Vous avez une partie des gens qui vont descendre des avions par grande conviction environnementale, écologique. Mais le but, c'est de faire qu'il y ait encore plus de monde qui descende des avions. Il faut en face proposer un produit qui soit extrêmement désirable. Donc on a décidé de réinventer le train de nuit. Parce que le train de nuit, en fait, c'est un moyen de transport qui est magique, puisqu'en fermant les yeux, on peut aller loin. Un imaginaire exceptionnel, puisque c'est celui de l'Orient Express, de la fin du 19e siècle, du début du 20e, des années folles. Et l'expérience du train de nuit, en partant de là, a été dégradée de décennie en décennie pour arriver à, pardonnerai l'expression, mais un produit dégueulasse, un produit qu'on a arrêté il y a 10 ans, qui était un produit dans lequel on n'avait plus envie de monter. Si on veut que les gens remontent dans les trains de nuit, il faut leur offrir de l'intimité. Donc il n'y a que des couchages privatifs à bord de Midnight, qui vous permet de voyager dans votre bulle sociale, que vous soyez seul, que vous soyez en couple, en famille. À partir du moment où on parle d'intimité, on parle de confort, on remet des literies de qualité, vous rentrez dans votre chambre, le lit est fait, vous avez une très bonne insonorisation. Et puis on rajoute à ça la convivialité, parce qu'il n'y a plus de restaurants, il n'y a plus de bars dans les trains de nuit. Voilà, on se définit comme un hôtel sur rail.
Aujourd'hui, sur les lignes intérieures, avec la SNCF, les billets de train de nuit, ils sont très subventionnés par l'État, à peu près à hauteur de la moitié du prix du billet. Comment vous êtes rentable dans votre modèle économique ?
Nous n'avons pas l'obligation de desserte des territoires. Je pars de Paris et j'adresse, comme je l'ai dit tout à l'heure, des marchés importants. Prenons l'exemple de Milan et de Venise. Je le disais tout à l'heure, c'est 4 millions de voyageurs. Combien de gens voyagent sur un Paris-Tarbes par an ? Le marché n'est pas du tout le même. J'attaque un marché qui est beaucoup plus important.
Dans ce que vous nous décrivez, on visualise plutôt quelque chose d'assez luxueux. Est-ce que c'est ça ? Et en termes de tarifs, comment ça se passe ?
On ne communique pas sur les prix aujourd'hui, mais le message, il est clair. Toute personne ayant les moyens de voyager avec EasyJet aura les moyens de voyager avec Midnight. Tout le monde n'a pas les moyens de voyager avec EasyJet. Néanmoins, ceux qui voyagent avec EasyJet font partie d'une grande partie des gens qui voyagent en Europe en avion, et ce sont ceux qu'on veut convaincre de descendre de ces avions pour monter à bord de nos trains, et eux auront les moyens de voyager avec Midnight.
Des liaisons européennes comme Midnight Trains veut en relancer. Il en existe une déjà au départ de Paris. Elle est opérée par OBB, les chemins de fer autrichiens. Départ de la gare de l'Est les mardis, vendredis et dimanches à 18h58 pour arriver à Vienne en Autriche à 10h le lendemain matin. Pas mal de monde déjà qui monte dans le train, visiblement des touristes, des personnes âgées et quelques familles. L'extérieur, il ressemble dangereusement à un de nos trains français. C'est quasiment exactement les mêmes. Sauf que là, on arrive à notre voiture, la 414. Donc Schlafwagen, voiture couchette. Et puis un petit hashtag sur le bord du train, Love your planet, aimez votre planète. Donc gros accent mis sur transport écologique. On monte à bord. Après
c'est des couchettes.
Ouais.
Vous appuyez là-bas, vous avez une sonnerie ici là-bas.
Ouais.
Vous appuyez, puis je viens faire les lits.
Ok,
je suis à votre disposition, madame.
Super, merci. Oui. Monsieur. Alors déjà quand on arrive, à la différence du Paris-Lourdes, les couchettes sont pas installées, mais en même temps on part à 19h, donc on va pas se coucher tout de suite. Les sièges sont là, ce sont des demi-compartiments, donc trois couchettes, les unes au-dessus des autres. Petite bouteille d'eau qui nous attend, avec un verre. Frühstück, ça c'est pour commander le petit-déj de demain matin. Et surtout, ça on n'avait pas, petit cabinet de toilette. Lavabo. C'est pas mal, un peu plus d'espace. Et en bout de voiture, toilette. Cette fois-ci même, il y a une douche. On peut se doucher avant d'arriver.
Attention les filles, la presse est là. Donc sautez-vous. Donc sautez, taisez-vous.
Justement,
vous êtes espionné. Oh,
on
non.
Se demandait si c'était un voyage scolaire ou...
Mais oui.
Mais oui.
Mais oui.
Bonjour, on travaille à France Inter.
Non, France Inter. Oh yeah.
Et vous partez. Alors, moi, de Paris, vous allez où? Vous faites quoi?
C'est une longue histoire. Bah allez-y les gens.
On vient, bah du coup on vient de Rennes, on a pris le train jusqu'à Paris. Après là on a repris le train de nuit jusqu'à Vienne. Et demain matin, après, on prend un autre train jusqu'à Graz pour arriver dans la ville où on va. Pour rejoindre nos correspondants autrichiens.
Bah, en fait, mais non, mais en fait, l'historique, c'est qu'on part toujours en avion. Parce que c'est pratique, parce que voilà. Et puis, actualité quand même énergétique, compliquée. Et le voyage a failli pas être voté à un vote près. Quoi. Et donc, moi j'attendais et je cherchais le train de nuit depuis des années. Et puis, on passait par une agence de voyage qui ne trouvait que des avions. Et puis c'est OBB, la compagnie autrichienne, qui affrète ce train en fait. Et c'est en passant par l'Autriche que j'ai réussi à avoir les infos concernant ce train. Et au final, ben, on est moitié pris. Et, ben, je pense que l'ambiance va être bonne. Quoi.
Ça veut dire que dans votre établissement, on a dit on ne prend plus l'avion.
Ben, en conseil d'administration, c'est le budget demandé aux familles est trop élevé.
Eh ben, merci beaucoup.
Ben, merci à vous.
Si
Si le trajet entre Paris et Vienne est direct, il faut changer de locomotive et d'équipe en cours de route. Il est 1h30 du matin, arrêt à Mannheim, en Allemagne.
Prise en charge LZB.
Il va couper et donc il va s'en aller et lui il va se raccrocher dessus et c'est les Autrichiens qui prennent la relève.
Parce que leur locomotive est plus adaptée.
Il peut rouler jusqu'à 200 km/h, celle-là elle est limitée à 140. On est encore à deux.
On va faire le voyage à vous.
Merci beaucoup.
Au revoir.
La locomotive autrichienne s'accroche au wagon. Nous remontons à bord pour nous recoucher. Il reste 7 heures de trajet. Le jour se lève sur la campagne autrichienne. On nous sert le petit déjeuner. Nous arrivons le ventre plein et douchés dans la gare centrale de Vienne, moderne, spacieuse et aérée. Il suffit de traverser la rue pour rejoindre les locaux de OBB, les chemins de fer autrichiens, où nous rencontrons Bernard Rieder, le porte-parole.
Nous avons le plus important réseau de trains de nuit internationaux en Europe. Nous y exploitons 20 lignes en tout. La plupart en Autriche, en Allemagne, en Suisse et en Italie. Mais nous nous développons aussi vers l'ouest. Par exemple, nous allons jusqu'aux Pays-Bas, en Belgique et aussi à Paris.
Combien de voyageurs avez-vous dans les trains de nuit en Autriche ?
L'an dernier, nous avons transporté plus d'un million et demi de voyageurs dans nos trains de nuit. Ce n'est pas énorme. En comparaison au nombre de personnes qui empruntent nos trains de jour en Autriche, mais c'est une part de marché importante. Et nous observons que la demande est réelle. À l'heure actuelle, presque tous nos trains sont complets pour l'été prochain.
L'Autriche a relancé des lignes, repris même certaines lignes étrangères, notamment allemandes, ces dernières années, alors que d'autres pays ont abandonné cette voie. Pourquoi est-ce que OBB a fait ce choix ?
Nous observons une hausse de la demande pour les trains de nuit. Et cette demande croît d'année en année. C'est principalement dû aux préoccupations environnementales. Les gens se posent de plus en plus de questions quand ils voyagent. Dois-je prendre un avion, une voiture ? Existe-t-il une alternative ? Il y a de plus en plus d'alternatives grâce aux trains en Europe. Certains de jour et à grande vitesse, mais aussi en train de nuit pour les plus longs trajets. Et ce que nous observons est flagrant. Dès que nous ouvrons une nouvelle ligne, c'est très rapidement un succès. Alors nous pourrions ouvrir plus de lignes si nous avions suffisamment de trains. Nous avons passé commande de 33 nouveaux trains de nuit. Ils seront une révolution pour le marché parce qu'aujourd'hui, de nombreux trains de nuit sont composés de vieilles voitures.
Et c'est ce que cherchent aujourd'hui les passagers, plus de confort et d'intimité ?
De nos jours, les gens veulent de l'intimité. Les passagers réservent beaucoup plus de voitures-lits avec seulement une ou deux personnes à l'intérieur ou alors un compartiment privatisé dans nos trains. C'est pourquoi nous inaugurons une nouvelle catégorie dans nos nouveaux trains. Des mini-cabines. C'est une toute petite cabine, mais vous aurez toute votre intimité, et c'est ce qui est important aujourd'hui.
En France, le train de nuit est très subventionné par l'État et lui coûte cher. Est-ce que vos trains, à vous, sont rentables ?
Nous avons en Autriche un système quasi identique. Une partie des trains répond à la demande du gouvernement et le système dans son ensemble peut être rentable. Mais une chose est sûre, si c'est seulement pour faire de l'argent, vous ne pouvez pas exploiter des trains de nuit.
Quelles sont vos perspectives de développement ?
En décembre prochain, nous allons ouvrir deux nouvelles lignes. Nous allons exploiter un nouveau trajet entre Berlin et Paris et de Berlin à Bruxelles. C'est un grand pas pour la réalisation d'un véritable réseau européen de trains de nuit.
Le nouveau départ des trains de nuit, c'était un reportage de Faustine Calmel avec Marc Garvenès à la prise de son, réalisation Jérôme Chélius, assisté de Martine Messonnier, mixage Guillaume Ledu. Vous pouvez retrouver d'ores et déjà cette émission sur le site de France Inter.